beaucoup. RFI Matin, la suite, c'est un nouveau journal dans moins de 20 minutes. Et le salon de l'agriculture qui démarre aujourd'hui en France après une année difficile et tendue dans le monde agricole. On en parlera d'ailleurs juste après avec notre invité. L'actualité, c'est aussi l'Allemagne à J-1 d'un scrutin de tous les dangers. Les législatives anticipées dominées par les conservateurs et l'extrême droite en deuxième position. Reportage au meeting hier soir du conservateur Friedrich Merz dans la Ruhr à 6h, temps universel. À suivre d'ici là notamment la revue de presse avec Catherine Potel, le regard sur l'actualité de Jean-Baptiste Placa et un bilan aujourd'hui des deux mandats de Moussa Faki Mahamat à la tête de la commission de l'Union africaine. Mais tout de suite les sports. Bonjour Victor Missistrano.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
On commence par de la boxe et ce combat inattendu, un choc de poids lourd ce soir à Riyad en Arabie Saoudite.
Martin Bacoler enfile les gants au pied levé, le géant de la RDC a saisi l'opportunité. Le champion anglais Daniel Dubois, malade, Bacoler s'est proposé pour le remplacer et affronter le néo-zélandais Joseph Parker. Ce dernier totalise 35 victoires en 38 combats. Pas de quoi impressionner le Congolais qui n'a donc pas pu se préparer spécifiquement pour l'événement. À 31 ans, celui qui n'a perdu qu'une fois en 22 combats vise une 11e victoire de rang. Prévue à 22h temps universel, ce match, Julien, peut servir de tremplin dans l'ascension de Martin Bacoler vers les sommets de la boxe mondiale.
À présent, on se tourne vers la Cannes féminine 2026 de football. Le premier tour des éliminatoires se poursuit.
Hier, au match aller à Thiès au Sénégal, la Guinée et le Cap-Vert se sont quittés dos à dos de partout. La situation aurait pu être encore plus délicate pour le Sili, mené 2-0 à la pause et revenu au score in extremis. À la mi-temps, le sélectionneur guinéen Kaman Kamara a trouvé les mots pour remobiliser ses joueuses après cette première période catastrophique.
On n'a pas du tout joué. Mon constat est que les filles, il y avait un peu de complexe. Donc finalement, on a bombardé à la mi-temps au vestiaire. Je l'ai rappelé que nous sommes chez nous. Donc c'est ce qui fait faire la réaction pour remonter des buts, ça n'a pas été facile. Mais félicitations aux filles parce que ça a été un gros travail. Mentalement, elles doivent être fortes parce que le retour, ça va être un match très dur parce qu'on va chez l'adversaire. Maintenant, c'est qu'il faut, on va être très motivé, très engagé pour gagner le retour.
Propos recueillis par Tierno Yadiello, ce match retour Cap-Vert-Guinée aura lieu mercredi. Hier, les Togolaises ont de leur côté surclassé Djibouti 5-0, défaite du Rwanda face à l'Égypte 1-0.
Autre compétition continentale, l'Afro-Basket aura lieu cet été en Angola et la seconde fenêtre des éliminatoires a débuté hier.
Et la République démocratique du Congo poursuit son sans-faute. Quatrième succès aux dépens du Mali, 65-59 à Rabat. En seconde période, les Léopards se sont appuyés sur leur défense pour s'imposer, nous explique Michel Perrin, le sélectionneur.
On était des agneaux en première mi-temps. On a eu l'attitude de joueurs qui étaient déjà qualifiés, qui n'avaient pas faim. Et en deuxième mi-temps, on a eu l'attitude qu'on a depuis la première fenêtre que j'ai repris cette équipe, une attitude de loup qui ont faim et qui veulent manger l'adversaire. Parce que c'est ça l'ADN de cette équipe. Mais par contre, défensivement, cette équipe a du cœur et a de l'intensité. C'est extraordinaire. La deuxième mi-temps était une démonstration de ce qu'est une défense, une force défensive collective.
Michel Perrin avec Cédric Ralfi. Carton plein aussi du Sénégal, tombeur du Rwanda 96-73. Et de la Côte d'Ivoire qui a étrié Madagascar à Antananarive 106-73. A signaler aussi la qualification du Cameroun grâce à un succès le 3e sur le Gabon 82-65. Enfin, la sensation des derniers Jeux Olympiques, Julien, le Soudan du Sud a aussi décroché son ticket pour cet Afro-Basket en écrasant le Maroc 69-37 à Rabat.
Merci Victor Missistrano, à tout à l'heure.
RFI, toute l'actualité, Julien Coquel-Rohem.
Et bonjour Catherine Potet.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
La revue de la presse internationale et à la une aujourd'hui le sort de l'otage israélienne Shiri Bibas.
Son visage souriant est en une du Times of Israel avec ce commentaire. Le kibbutz Nir Oz annonce que Shiri Bibas a été assassinée en captivité à Gaza. Cette annonce intervient, explique le quotidien israélien, alors que le corps que le Hamas prétend être le sien vient d'être amené en Israël. Hier, les dépouilles de ses deux enfants avait été ramené dans l'État hébreu, ainsi qu'un troisième corps qui s'était avéré ne pas être celui de la mère de famille israélienne. Cette fois-ci, l'annonce du kibboutz Nir Oz semble indiquer que c'est bien le corps de Shiri Bibas qui a été ramené en Israël. Le Jérusalem Post précise toutefois que l'Institut de médecine légale n'a pas encore confirmé l'information, mais la radio israélienne, elle, l'a fait. Le Parisien, de son côté, a rencontré hier des pères et des mères de famille israéliens qui, nous dit le quotidien français, commentent avec dégoût et effroi le rapatriement hier d'un corps qui n'était pas celui de Shiri Bibas. Pour beaucoup, explique le Parisien, il s'agit d'un calcul du Hamas pour prolonger les souffrances des proches de la famille. Tout est supplice dans cette horreur.
À la une également, un nouveau salut, interprété comme un salut nazi aux États-Unis.
Après Elon Musk, c'est cette fois-ci Steve Bannon, ex-conseiller de Donald Trump, qui a fait ce geste, bras droit tendu devant lui. Le New York Times précise que Bannon dément toutefois qu'il s'agissait d'un salut nazi. Dans un message, il assure qu'il a salué, comme d'habitude, le mouvement MAGA, Make America Great Again. Les faits se sont déroulés lors de la conférence d'action politique conservatrice à Washington, à laquelle assistait le français Jordan Bardella, le président du Rassemblement National, qui a préféré, précise le New York Times, annuler son intervention après le geste de Steve Bannon, expliquant qu'un des intervenants avait fait un geste provocateur faisant référence à l'idéologie nazie. Steve Bannon a aussitôt répliqué en qualifiant Jordan Bardella de joli garçon trop faible pour gouverner la France. En Italie, le Corriere della Sera publie la photo de Steve Bannon, le bras tendu, et cite Antonio Giordano de Fratelli d'Italia, l'extrême droite italienne, selon lequel la salle devant laquelle s'exprimait Steve Bannon était pleine de gens portant des kippas. Pensez-vous qu'il ait pu faire un salut nazi, ajoute Antonio Giordano. Ne plaisantons pas, dit-il, je crois que Bardella s'en est tenu à un compte-rendu superficiel.
L'actualité internationale, particulièrement anxiogène ces dernières semaines, inquiète, semble-t-il, l'armée belge, Catherine.
Oui, la question est en une du journal Le Soir. Cash, eau, médicaments, faut-il vraiment préparer un stock de guerre? Le chef de la défense belge, Frédéric Vansina, explique le quotidien, a appelé les Belges à se préparer à la guerre en stockant de l'argent et des vivres. Frédéric Vansina a notamment invité la population à faire des provisions au cas où les réseaux bancaires ou d'approvisionnement en vivres soient paralysés par des cyberattaques. Il pense bien sûr, nous dit Le Soir, à une guerre hybride, mais la liste des menaces est longue. La Commission européenne a d'ailleurs commandé un rapport sur ce sujet. L'accent est mis sur la communication à destination de la population, qu'on incite à se poser plusieurs questions comme celle-ci. Mes enfants connaissent-ils le numéro 112 pour les appels au secours? Ai-je des copies de mes papiers d'identité? Est-ce que je sais comment couper le gaz et l'électricité rapidement? Il est aussi question d'un kit d'urgence dans lequel on trouverait notamment une radio à pile, parce qu'en cas de problème au niveau du réseau de télécommunication, la radio pourrait être un moyen de transmettre des messages à la population. Autant de précautions qui posent question. Il n'est pas prévu toutefois d'envoyer une brochure d'information à tous les citoyens, ce qui risquerait d'affoler la population, estime le centre de crise belge, qui assure travailler prioritairement sur la sensibilisation pour que la population apprenne à développer les bons réflexes.
Rassurant. Merci Catherine Potet. À tout à l'heure.
RFI Matin.
Bonjour Jean-Baptiste Placard.
Bonjour Julien Coquel-Rohem.
Dans son discours d'adieu, Moussa Faki Mahamat, le président sortant de la Commission de l'Union africaine, s'est félicité de nombreux succès tout en déplorant quelques insuffisances, lacunes, difficultés et défis. Que retiendront concrètement les Africains de ces deux mandats et à quoi doivent-ils s'attendre avec son successeur Mahamoud Ali Youssouf?
Pour être franc, les Africains n'en sont déjà plus à se préoccuper de ce qu'a éventuellement réussi ou n'a pas osé Moussa Faki Mahamat. Quant à son successeur, ils sauront avec ce qu'il leur reste de patience attendre de le voir à l'œuvre avant de porter un quelconque jugement. Cette indifférence de fait dénote un scepticisme, sinon une grande défiance des peuples du continent, dubitatif quant à l'utilité de cette organisation dans leur vie. Mais cette défiance vise davantage les chefs d'État que les présidents de commissions plus ou moins malléables qu'ils élisent. comme si les déconvenues passées de quelques trop fortes personnalités dans ses fonctions avaient fini par inciter la plupart des titulaires à se complaire dans un excès de prudence, confinant parfois à l'inefficacité. Cela n'est certes pas un travers particulier à la seule Union africaine, mais en raison de l'importance des défis à relever, les conséquences ici sont d'une ampleur colossale. Cette fonction requiert du courage pour oser rappeler à leur devoir des chefs d'État plus souvent tentés d'utiliser cette tribune pour conforter leur pouvoir que pour défendre leur peuple. Elle implique de savoir à l'occasion tenir tête aux dirigeants qui prennent des libertés avec les textes qui régissent l'organisation. Lorsqu'un État membre de l'Union européenne viole les règles de l'Union, la Commission de Bruxelles sait le rappeler à l'ordre et même au besoin lui infliger les sanctions prévues par les textes.
Certains premiers responsables de l'organisation qui ont osé tenir tête au chef d'État ont eu à le payer très cher.
Cela est certain. Le Guinéen Boubacar Diallo Télé, le Camerounais Nzoé Kangaki, le Togolais Edem Kodjo, autant d'expériences dont les dirigeants africains semblent avoir tiré comme une leçon de médiocrité, préférant des présidents de commissions dociles et obéissants à de trop fortes personnalités. C'est pourtant, à l'échelle continentale, l'une des fonctions qui requiert le plus de créativité, d'envergure et un leadership convaincant. Car l'équation personnelle compte toujours pour beaucoup dans une telle fonction.
Et en l'occurrence, le président sortant de la commission dit avoir laissé aux dirigeants un document portant sur certaines questions relatives à la survie de l'organisation. N'est-ce pas courageux ?
C'est ce qu'il semble suggérer lorsqu'il affirme qu'un chef d'État a qualifié son document de « brûlot ». Mais il s'est aussi enorgueilli d'avoir passé 17 ans au Conseil exécutif de l'Union, qu'il nomme « Club des ministres des Affaires étrangères », entre l'époque où il y siégeait comme chef de la diplomatie tchadienne et ses deux mandats de président de la Commission. Cette longévité ne lui aura manifestement pas permis d'anticiper et de surmonter les insuffisances, lacunes, difficultés et autres défis qu'il décrit par ailleurs. Pondre un brûlot alors que votre poste n'est plus en jeu, donc pas menacé, ce n'est ni du courage ni de la témérité. D'autres ont connu des difficultés pour avoir justement osé des actions qui valaient brûlot. Et il ne s'agit pas que de l'emblématique Boubacar Diallo Télé, sujet d'élite achevé de manière inhumaine dans les geôles du panafricaniste et néanmoins dictateur Ahmed Sékou Touré. L'Afrique qui s'acharne à achever ses propres héros doit-elle s'étonner d'en manquer dans des positions aussi importantes ? Les peuples du continent sont plus que mal à l'aise pour se plaindre du tort que leur font les autres lorsqu'ils réalisent que pour ne pas respecter les textes et les règles qu'elles se donnent, l'organisation panafricaine s'évertue à dissuader, sinon à casser les prétendants les plus courageux à tout leadership continental.
Merci Jean-Baptiste Placard. Et bientôt 6h en temps universel sur la radio du monde. Plus que 4 minutes avant le prochain journal, mais d'abord un peu de musique. Avec le chanteur italo-britannique Pierce Faccini et le maître de la cora malien Balaké Sissoko. Ils sont réunis sur un album intitulé Our Calling. Et le titre Born on the Wind est dans la sélection du mois d'RFI.
Sings, bird at the lark that the new light brings. Remember it then.
on the Wind, Pierce Faccini et Balaké Sissoko sur leur nouvel album. Si vous nous écoutez à Paris, ils seront en concert à la Cité de la Musique le 19 mars. Et le journal dans une minute.
Song shall return before long.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Le MMA, ou arts martiaux mixtes, est un sport de combat de plus en plus médiatisé dans le monde. Malgré une réputation sulfureuse, ce spectacle venu des États-Unis est entré de plein pied dans le sport business. Quelles sont ses recettes et qui en bénéficie? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs,
avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI. Ce dimanche, sur RFI, idée, Pierre-Edouard Deldic.
Décolonial, nous allons parler de ce mot et des idées qu'il véhicule avec notre invité, le sociologue Pierre Gossens. Tout commence avec une date.
1492 et l'arrivée de Cristobal Colomb, ce serait la date départ de la construction du capitalisme et de la modernité occidentale telle que nous la connaissons aujourd'hui.
Idée, proposée par Pierre-Edouard Deldic, tous les dimanches à 17h10 TU sur RFI.